Chapitre 59. 13h36. Comme souvent lors d'un sinistre, l'eau a fait autant de dégâts que le feu. Même si en l'occurrence ce n'est pas celle de l'ancien incendie qui aura aggravé l'état de Hanford Manor, le répugnant mélange de pluie et de cendres couvre les sols d'une boue noire. Près du quart de l'étage a finalement été perdu, ainsi que la portion de toiture correspondante. Les murs tiennent encore debout, mais leur sommet noirci se perd dans l'azur. Il est toujours perturbant d'être en mesure de voir le ciel dans un décor où l'œil devrait s'arrêter à un plafond. Chris se tient au bord du vide, à l'endroit où se situait la salle des communications. La violence du brasier a non seulement détruit le module satellite et les aménagements, mais avec eux les éventuels indices qui auraient pu permettre de déterminer les causes de l'incendie. Comme sur ses dossiers professionnels les plus épineux, Reignard en est réduit à des conjectures, en envisageant des motivations et des suspects, plutôt qu'en cherchant des preuves matérielles dont il ne subsiste rien. Du bout de sa botte, il retourne un tronçon de charpente brûlée. Impuissant à expliquer, il se borne à constater et tourne les talons vers la partie épargnée. La porte de la chambre de Judy est restée ouverte. La fumée et les flammes ont teinté l'ensemble de la pièce d'un voile anthracite. Les plâtres du plafond écroulé ne sont plus que des croûtes calcinées tombées au sol et sur le mobilier. Chris s'approche du lit marqué par les traces de combustion. Il revoit le corps inerte de Judy, se refusant à visualiser l'horreur de ce qu'il aurait pu découvrir s'il était arrivé trop tard. Il ressort comme s'il fuyait pour gagner le bureau d'en face. Cet espace-là a moins souffert. Il s'y aventure en évitant les luxueux tapis pour ne pas les souiller. Le bureau de Hanford paraît quasiment intact. Chris s'avance, attiré par le large tiroir sous le plateau du meuble. Celui-là même où sont rangés les documents relatifs à la généalogie des familles. Il songe au passionnant carnet de recherche d'Henry Archibald, le dernier des Bold, qu'il aimerait beaucoup pouvoir consulter dans son intégralité. Tenté d'y jeter un coup d'œil, il tend les doigts vers la poignée du tiroir lorsqu'une voix le surprend. « Je vous en prie, ouvrez-le. » Faisant volte-face, Chris découvre Neil Hanford sur le seuil, les traits tirés, mais habillé avec plus d'allure que la nuit précédente. Le maître des lieux s'approche et désigne son meuble d'un geste là. Il est vide. Vous avez réussi à mettre vos documents à l'abri? Non, mon cher, ils ont disparu. Quelqu'un a profité du sinistre et de la confusion pour me les dérober. Sale coup. Certes, mais j'ai d'autres chats à fouetter. Au fait, merci de m'avoir cédé votre chambre à la taverne. Vous remercierez Miss Fairley d'avoir laissé la sienne à Judy. Comment vous sentez-vous? Décidé à changer les choses. Chris indique le couloir ravagé. Vous allez pouvoir commencer par les papiers peints. Hanford sourit sans conviction. Ce qui s'est passé cette nuit m'oblige à reconsidérer mes priorités, Christopher. Le contraire serait étonnant. J'ai pris conscience que lorsque vous vous préoccupez davantage de la maison que de ses occupants, vous avez un problème. Comment va Judy? Aussi bien que possible. L'incendie aura au moins eu un effet positif inattendu, il nous a rapprochés. À croire que cette résidence se dressait entre nous, et qu'en se consumant, même en partie seulement, elle laisse enfin plus de place à notre relation. Il est grand temps de se rappeler qui nous sommes l'un pour l'autre, et de le laisser apparaître au grand jour. Soyez prudent, Neil. Le fils Murray, Edward, a été enlevé ce matin. La nouvelle ébranle Hanford. Quelle infamie! J'ai tout à coup envie de courir vers mon enfant et de la protéger, les armes à la main s'il le faut. Hanford cherche le regard de Chris. Vous avez une idée de qui a commis cela? Ceux qui, dans la psychose de meurtre et d'incendie qui règne, ne perdent pas le magot de vue. Hanford fait quelques pas. Cet après-midi, lors du conseil extraordinaire, je compte faire des annonces. M'autorisez-vous une suggestion? Selon vous, je devrais m'abstenir? Vous ne devriez même pas vous y présenter. Cette idée de réunir tout le monde, particulièrement aujourd'hui, me paraît suspecte. Un piège. Vous n'y songez pas. Nous serons plus d'une trentaine à cette réunion. Souvenez-vous, on en a déjà massacré plus que ça en une seule fois, ici même, à Kilthorpe. D'un hochement de tête, Hanford en convient. Il observe Chris attentivement. Vous ne viendrez pas? Non. Et je vous engage à faire de même. Hanford pèse intérieurement le pour et le contre. « Je crois que je vais vous écouter, » finit-il par trancher. Rognard pointe le tiroir. L'incendie pourrait très bien n'avoir été qu'une diversion pour voler vos documents. L'enjeu n'aurait donc pas été de me priver de communication. Vos archives familiales sont d'une importance capitale pour qui voudrait percer le secret de la baie. Cette nouvelle perspective trouble Handford. Vous n'avez sans doute pas l'esprit à cela, remarque Chris, mais justement à ce propos, votre ancêtre faisait-il mention de visiteurs fameux qui seraient venus dans la baie? Sans hésiter, Handford confirme. Effectivement, il y en a eu plusieurs et les derniers ont même logé chez nous. On m'a certifié qu'un conseiller de Staline avait dormi dans la chambre où vous avez secouru Judy. Vous ne m'en aviez rien dit. J'ai toujours davantage considéré ces anecdotes comme du folklore, mais si vous en avez envie, je me ferai un plaisir de vous conter les événements mondains dont le manoir fut le théâtre. Ces personnalités n'étaient pas du genre à faire le déplacement pour admirer le panorama. Entièrement d'accord avec vous. J'ai d'ailleurs ma petite théorie à ce sujet. Mais encore, le massacre les intriguait certainement. Son ampleur, son mystère, sans parler de la dimension quasi mystique que lui ont conféré les siècles. Bref, ce qui a causé la perte des uns a sans doute exercé une fascination sur d'autres. Je ne me suis par contre jamais expliqué comment cette page tragique avait pu arriver jusqu'aux oreilles de ces gens. Chris glisse la main dans sa poche et en sort l'un des titres qu'il a découvert dans la cage du mur. Avez-vous une idée de ce que cela peut être ? Handford s'en empare et rejoint une fenêtre pour mieux l'examiner. Manifestement, un billet à ordre, d'origine espagnole, datant de la fin du XVIIe siècle, à en croire la date. Il le place dans la lumière pour passer au crible le papier en transparence. Où avez-vous déniché cette curiosité ? Caché dans un mur de Chief's House. Est-ce à dire que vous aussi vous pratiquez des fouilles ? Bien malgré moi, je vous l'assure. Chris fait un geste vers le billet. Votre ancêtre, Henry Archibald, était convaincu qu'à l'époque de l'attaque du village, la baie abritait une bande de faux monnayeurs. Cela pourrait-il être le produit de leur contrefaçon ? Difficile à dire, ce document n'a de valeur qu'auprès de celui qui l'a émis. Il déchiffre l'écriture pâlie. Francesco de Velasco. Selon cette signature, qui manque singulièrement de modestie avec ses arabesques sans fin. Ce titre est l'équivalent d'une reconnaissance de dette ou d'un « bon pour » que cet homme aurait délivré ou offert. Il s'agit d'un billet à ordre privé et non d'un billet de banque, qui eux ne seront introduits en Europe qu'au début du XVIIIe siècle. Mais l'hypothèse mérite d'être envisagée. Après tout, ce document devait représenter une somme considérable pour quelqu'un à l'époque. Chris prend conscience de l'heure. « Je vais devoir vous laisser, Neil, j'ai plusieurs casseroles de lait sur le feu. »« Bon courage, je vais retourner auprès de Judy. » Je ne vous dis pas à tout à l'heure, puisque ni vous ni moi n'assisterons au conseil. C'est préférable ainsi. Contentons-nous de nous dire « à bientôt », donc. En prononçant cette formule anodine, Chris sait que si cela tourne mal pour lui ce soir, il ne reverra sans doute jamais Neil Handford.